Évidemment, quand on parle d'adorateur, vous pensez, je suis sûre, tous à David. Et quand j'ai su que bon, le thème de l'année, ce serait l'adoration, je me suis dit, bon, allez, il va falloir que je prenne David. Et puis, non. Et dans mon culte personnel, je suis tombée sur une prière de Jacob. Et je me suis dit, ben, voilà un adorateur. Et voilà comment ça a commencé. Et j'étais contente en lisant les commentaires... Cette semaine, un des commentaires disait que Jacob était un des modèles en tant qu'adorateur. Ah, bon, je ne suis pas complètement à côté, ça va. C'est important parce que je crois qu'effectivement, j'allais dire l'humanité, a commencé dans une relation d'adoration avec Dieu. Et je pense que ces gens-là savaient adorer Dieu, j'allais dire, presque mieux que nous. Parce que nous, on est beaucoup brouillés par tout le matérialisme, tout ce qu'on a, etc., toute notre vie. Eux, ils étaient totalement, et ils le savaient, totalement dépendants de Dieu. Une sécheresse, et tout était fichu. Les gens de la campagne, d'ailleurs, on apprécie beaucoup les films chrétiens que les Schmitt et les Friedman nous ont fait connaître, parce que justement, ils nous montrent à quel point les gens de la campagne, déjà, sont beaucoup plus dépendants de Dieu que nous. Tout au moins on l'est tous, mais eux ils s'en rendent compte. Et donc ça nous a fait réfléchir. Je vous les recommande d'ailleurs. Alors ce qui est intéressant dans les premiers patriarches, hein, Abraham, Isaac, Jacob, c'est que contrairement aux autres religions, vous allez vous apercevoir, je remonte toujours un petit peu en arrière, hein, c'est plus fort que moi, vous allez vous apercevoir que c'est pas l'homme qui cherche par tous les moyens à toucher Dieu, c'est l'inverse. Je crois dire vrai, tout au moins c'est ce que j'ai lu partout et c'est ce que j'ai entendu partout, la plupart des religions du monde, c'est l'homme qui cherche comment il va pouvoir plaire à Dieu. Comment il va pouvoir entrer en contact avec Dieu. Comment il va pouvoir éviter la malédiction et obtenir la bénédiction. Ça, c'est le principe de la religion, religion humaine. Dieu a demandé une relation. Et c'est lui qui a cherché un homme. C'est lui qui a parlé avec Adam. C'est lui qui a parlé à Noé. Et c'est lui qui va parler à Abraham. Et le plus étonnant, je n'avais pas réalisé à quel point, quand Abraham a ce fameux rêve où il rencontre Dieu, et vous savez, les flammes de feu traversent les animaux au moment de l'alliance, il ne demande pas, Abraham ne va pas traverser au milieu des animaux. C'est Dieu qui va le faire. Traverser au milieu de l'animal séparé en deux. Dieu s'engage à 100% et il s'engage à 200%. Parce qu'en fait, Abraham, lui, il regarde et c'est Dieu qui s'engage dans l'alliance avec l'homme. C'est tout le contraire de la religion. Dieu cherche l'homme, Dieu cherche à établir une relation avec lui et Dieu, de son côté, s'engage totalement. C'est formidable. J'ai été frappée par ça parce que je voulais quand même faire un petit retour en arrière. Hein, vous avez le récit de la création, puis la fameuse histoire de Caïn et Abel. Et puis voilà, le monde devient de plus en plus mauvais. Et Noé, destruction massive, déluge et redémarrage avec les enfants de Noé. Sem étant l'ancêtre d'Abraham. Et puis on a toute une série de gens. Et là, je me suis dit, mais... Qu'est devenue cette relation entre Dieu et Adam? Qu'est devenu ce dialogue quand même entre Noé et Dieu, qui n'était pas piqué des vers quand même, hein? Fallait avoir quand même connaître son Dieu pour faire une arche comme ça. Qu'est-ce que c'est devenu entre Noé et Abraham? Donc j'ai cherché un petit peu, je suis curieuse, et puis je me suis aperçue qu'en fait, pendant toute cette période, il y a eu des hommes qui ont marché avec Dieu. Il y en a eu, comme Enoch. Il y a eu des gens qui ont marché avec Dieu, mais c'était des cas isolés. La plupart des gens s'éloignaient de Dieu et faisaient n'importe quoi. Et puis Dieu va choisir un homme d'une civilisation rudement avancée. Alors je me suis fait le petit plaisir de replonger dans tous les livres d'archéologie. Et une civilisation rudement avancée parce qu'il venait de Ur en Chaldée et puis Haran au nord, à peu près à 1000 km au nord. C'était Mésopotamie, bon, la civilisation sumérienne, des gens qui avaient des maisons, des routes, même si toutes les routes n'étaient pas pavées, mais ils avaient des villes bien organisées. Et on a retrouvé des temples, des usines de tissage, des entreprises de tissage. Enfin, on a retrouvé des choses à Ur en Chaldée. Haran, c'était un petit peu la même chose. En plus petit, une vie vraiment avancée. Pensez qu'on est 4000 ans, écoutez bien les enfants, parce que c'est sur vos feuilles de questions, 4000 ans avant Jésus-Christ. 4000 ans avant nous. Donc 2000 ans avant Jésus-Christ. Il y a 4000 ans, ils avaient déjà une vie rudement bien organisée. Et la Bible ne dit pas, j'ai regardé de près, Abraham, on ne sait pas pourquoi son papa est parti de cette belle ville. Je soupçonne que comme ils étaient éleveurs, bon, vivre près d'une ville, ce n'était pas forcément l'idéal, mais on ne sait pas. Est-ce que c'est Dieu qui leur a demandé? Ce n'est pas clair. Par contre, une fois qu'ils sont tous arrivés à Haran, là, Dieu les appelle et lui dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. C'est le départ d'une relation avec Dieu. Alors mettez-vous simplement un tout petit peu à la place de ce pauvre Abraham. Moi, j'ai essayé de me mettre à sa place. Qu'est-ce qu'il savait de Dieu? Tout ce qu'il connaissait, c'était le culte du dieu lune. Allez, les ziggourats, là, ces fameuses sortes de pyramides, mais comme ça. On les a découvertes, hein, elles existent encore. Vous pouvez aller les voir en Mésopotamie. Malheureusement, je crois que c'est en Irak en ce moment, hein, donc ça ne doit pas être évident à aller voir. Mais qu'est-ce qu'il savait de Dieu? Visiblement, il savait entendre sa voix. Audible, probablement. Comment il savait? Comment il le reconnaissait? Alors, j'ai quand même un peu réfléchi, j'ai lu. Et je m'aperçois qu'en fait, la notion d'un Dieu Elohim, créateur, et El Shaddai, Dieu tout-puissant, sont les termes qu'on voit le plus dans l'Ancien Testament, enfin au moment des patriarches, c'était quand même une notion que les gens avaient, qui était restée depuis Adam, j'imagine, depuis Noé en tout cas, sûr. Donc la notion d'un Dieu créateur, tout-puissant, il l'avait. Mais alors, ce Dieu qui s'adresse à l'homme, alors que les Sumériens passaient leur temps à essayer d'atteindre ce Dieu, ils avaient construit ces grands temples, et tout en haut, il y avait le temple au Dieu Lune, et puis on essayait de faire tout un tas de trucs pour attirer les grâces de Dieu, il y avait des sacrifices, il y avait des tas de choses. Et là, c'est Dieu. Vous voyez que c'est vraiment l'inverse de tout ce que l'homme peut imaginer. C'est Dieu qui appelle Abraham. Alors, pourquoi moi, ça me fait penser que la Bible est vraie, elle est parfaitement authentique? Eh bien, c'est que l'imagination d'un homme ne serait pas allée jusque-là. Penser qu'un Dieu, El Shaddai, créateur, tout-puissant, c'est lui qui va s'adresser à l'homme, c'est pas dans l'imaginaire humain. Dans l'imaginaire humain, je vais tout faire pour l'atteindre. Par ma force, par mon intelligence, par ma pensée, etc., etc., mes sacrifices. Donc la Bible, là, nous montre à quel point Dieu est ce qu'on appelle tout autre. Et donc, il mérite vraiment toute notre adoration. Il n'a rien à voir avec nous, si ce n'est qu'il nous aime et qu'il nous tend la main. C'est quand même extraordinaire. Hein. Alors, je suis passionnée par l'archéologie, vous l'avez deviné. Et donc, j'ai regardé un peu les dernières fouilles, enfin, tout ce qu'on a trouvé sur cette période. Et c'est fantastique à quel point la Bible dit vrai. Alors, les gros malins qui vous disent que la Bible raconte des bobards, les écoutez même pas, c'est pas possible. Les fouilles archéologiques sont d'une précision. Alors, je peux pas, c'est pas le but de ce matin, mais je vous le dis parce que ça m'a touchée à quel point tout ce qu'on découvre vient confirmer ce que dit la parole de Dieu. Henri Blocher m'avait dit une fois, c'est comme les Hittites, on en parle beaucoup justement à propos d'Abraham et Isaac et Jacob. On a dit, oh ben, ils n'existent pas parce qu'on n'en parle que dans la Bible, ben voyons. Comme c'est que dans la Bible, forcément, ça n'existe pas, ben voyons. Ben, le jour où on a retrouvé toutes les tablettes d'argile sur les Hittites, avec tout ce qu'ils faisaient, leur contrat de mariage, leur contrat de vente de terrain, etc., bon, personne ne s'est excusé, mais voilà. Et c'est comme ça tout le temps. Je dirais, à chaque fois, c'est dans la Bible, alors on met en doute. Et puis quand les fouilles archéologiques confirment, on n'en parle plus, on met un voile pudique là-dessus. Mais je veux vous le dire, pour les enfants aussi, c'est important. Ce que la Bible raconte, ça semble bizarre parfois, parce que les patriarches vivaient très longtemps. On en a parlé justement avec Colline, qui disait qu'elle a un docteur en biologie dans son église à Londres, et qui disait que ce n'est pas du tout impossible que le mécanisme des corps humains, après la création, enfin pendant un certain temps, ont empêché le vieillissement des cellules. C'est pas impossible. On peut pas l'assurer, mais c'est pas du tout impossible. Si un docteur en biologie peut le dire, je crois qu'on peut la croire, c'est pas impossible. En tout cas, peu importe, c'est pas ça qui va déterminer notre foi. Mais je vous le signale, parce que les enfants souvent disent « Oh, il a vécu 175 ans celui-là, et celui-là il a vécu 127, et ainsi de suite. Pourquoi pas ? On n'en sait rien, et on va pas se battre là-dessus. Mais quand Dieu, on pense qu'il a créé le monde entier, je ne vois pas où est le problème pour quelques années de plus ou de moins. Enfin bon. Voilà, donc on se situe il y a 2000 ans. Abraham, le grand-père de Jacob, habitait donc cette vallée. Il est parti à la vallée de Ur en Chaldée. Il est parti tout au nord. Il a emmené toute sa famille. Et puis là, il s'installe dans un certain confort de nouveau. La ville n'était pas aussi grande, mais était très bien organisée. Et c'est là que Dieu parle à Abraham, comme je vous ai dit, il leur dit, va dans le pays où je te montrerai. Et là, à partir de là, la vie d'Abraham va devenir un long voyage. Alors, j'ai résumé, hein, parce que ce n'est pas le but, là, aujourd'hui. Sichem, Bethel, l'Égypte, de nouveau Bethel, Hébron, Damas, Hébron, Guérar, Beersheba, puis de nouveau Hébron. Oui, il voyage sans arrêt. Il va être pèlerin dans le pays que Dieu lui a promis. Ben alors quoi? C'est quoi la promesse de Dieu? Il n'avait pas dit, va dans le pays que je te montrerai. Et puis pendant toute la vie d'Abraham, ils vont être pèlerins. Ils vont aller de ville en ville. Ça va être la même chose avec son fils Isaac et encore avec Jacob. Alors c'est quoi les promesses de Dieu? Il y a le temps de Dieu. Et ça, il faut que nous, on y pense aussi. Il y a le temps de Dieu. Et nous, dans notre toute petite vie, maximum 100 ans, on peut dire, hein, c'est dur d'attendre les promesses de Dieu. Je suis sûre que chacun d'entre nous, on a un certain nombre de promesses de Dieu qu'on attend. Puis on se dit, Seigneur, quand même, tu sais que je ne vis pas longtemps, il faudrait peut-être que tu te dépêches. C'est pas évident, hein, le temps de Dieu, c'est pas le nôtre. Et je suis frappée de voir que ces pauvres gens que Dieu a envoyés en disant, voilà, va dans le pays que je te montrerai, je te donnerai ce pays à tes descendants. Et puis ben, le descendant suivant, c'était toujours pas ça, le descendant d'après, encore pas. Il y a eu le temps de Dieu pour que les tribus, les 12 tribus descendantes de Jacob puissent s'installer. Alors, un petit rappel, Isaac, le fils d'Abraham, vous vous souvenez, c'était un miracle, puisque Sarah était très âgée, Abraham aussi. Isaac a failli même être offert en sacrifice, heureusement Dieu a arrêté Abraham à temps. Il va se marier avec Rebecca, très important, parce que Abraham ne veut pas que son fils se marie avec les filles du pays de Canaan. Ce n'était pas du racisme, c'est simplement parce qu'ils avaient une façon de vivre et puis d'adorer les idoles qui ne convenaient pas du tout à l'appel qu'Abraham avait reçu. Donc, c'est très important qu'il se marie avec Rebecca, qui venait donc de la famille d'Abraham, qui eux avaient gardé le monothéisme, qui avaient gardé l'habitude d'adorer un seul Dieu. Important. Même si, bon, on va voir tout à l'heure, il y avait des petites choses qui n'allaient pas toujours. Donc, il va habiter au sud d'Isaac, près du Negev, donc plutôt dans une région un peu désertique. Il va remonter à Guérar pour échapper à la famine. Puis, il va passer de nombreuses années à rouvrir des puits. Ça, je me souviens quand on en a parlé. Hein, des puits que l'ennemi bouchait constamment. Alors, je ne sais pas, creuser un puits, c'est déjà pas drôle. Redéboucher des puits qui marchaient bien avant, c'est encore plus enrageant. Mais bon, le pauvre, c'était un homme patient. Et régulièrement, il rouvrait les puits que l'ennemi bouchait. Jusqu'au moment où Dieu a dit « ça suffit ». Et l'ennemi a arrêté de boucher ses derniers puits. Heureusement pour lui. Après 20 ans d'attente, sa femme Rebecca est enfin enceinte et c'est là que commence notre histoire. 20 ans d'attente. Alors, quand elle est enceinte, elle se retrouve avec des jumeaux. Alors c'est bien pour commencer, quelqu'un qui a attendu longtemps, on est content d'en avoir deux d'un coup, mais bon. Et on va lire dans Genèse 25, verset 19. Voici la généalogie d'Isaac, fils d'Abraham. 25, 19. Hein. Abraham engendra Isaac. Isaac avait 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, donc c'est Aram, et sœur de Laban l'araméen. Les Araméens, apparemment, étaient beaucoup plus monothéistes. Isaac intercéda auprès du Seigneur en faveur de sa femme, car elle était stérile. Alors là, franchement, ça commence mal. Dieu annonce à Abraham, je fais alliance avec toi, tu vas voir ce pays, tu vas être le père d'un peuple nombreux, sa femme est stérile, ils ont un enfant. Et puis, rebolote avec Isaac. Sa femme est stérile, ils doivent attendre 20 ans. Il y a certaines promesses de Dieu, on se dit, mais Seigneur, quand même, tout va de travers. Ça ne va pas du tout comme tu veux. Alors, voyez. Et puis finalement, il intercéda auprès du Seigneur en faveur de sa femme, car elle était stérile, et le Seigneur se laissa fléchir. Rebecca, sa femme, fut enceinte. Les enfants se heurtaient en elle, et elle dit, pourquoi cela m'arrive-t-il? Elle alla consulter le Seigneur, et le Seigneur lui dit, deux nations sont dans ton ventre, deux peuples se sépareront au sortir de ton sein, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le grand servira le petit. Alors là, moi j'étais étonnée que Rebecca ait consulté le Seigneur, donc ça veut dire qu'à cette époque-là, c'était déjà clair qu'on pouvait consulter le Seigneur quand on avait une question. Donc leur relation avec Dieu était quand même pas mal, hein. Parce que nous, quand on a des grosses questions, on a la Bible, on a l'expérience de milliers de témoins, on a plein de gens, plein de textes, plein de livres. Est-ce que notre première réaction, quand on a une question, c'est d'aller voir le Seigneur? Je me suis posé la question. C'est bien, quand même. J'ai admiré Rebecca avec le peu. Rappelez-vous qu'à l'époque, les enfants, ils n'avaient pas de Bible, hein. Ils n'avaient rien. Que les histoires que Abraham avait racontées, qu'il avait racontées à Isaac, qu'il avait racontées donc après à Jacob. Ils n'avaient rien d'autre que la tradition orale. Bon, ils avaient une mémoire d'éléphant, c'est vrai. Parce qu'ils n'avaient pas justement les moyens d'écrire facilement, donc ils mémorisaient beaucoup. Donc c'était fidèle ce qu'ils racontaient. C'était fidèle parce que justement ils avaient une mémoire bien plus développée que la nôtre. Nous, pour aller faire les courses, on est obligé de se faire une liste. Eux, ils retenaient des histoires entières qui pouvaient durer des soirées qu'ils racontaient. Parce que, bon, bah, leur mémoire, ils la faisaient travailler. C'est comme un muscle, hein. Et elle était très fonctionnelle. Il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Les histoires étaient bien transmises. Avec une réelle fidélité, pour ce qui est des histoires de la Bible, en tout cas. Donc, ils connaissaient que ça. Et Rebecca a tout de suite compris, j'ai une question, je vais trouver le Seigneur. Alors, la Bible ne dit pas comment Dieu lui a répondu. Mais elle a compris que c'était Dieu qui lui répondait. Je ne sais pas s'il s'est servi de quelqu'un, je ne sais pas du tout s'il lui a répondu oralement. La Bible ne le dit pas, mais il lui a répondu. Donc elle connaît Dieu, notre Rebecca. C'est important de s'en souvenir pour la suite. Parce que ce n'était pas toujours un modèle. C'est curieux ça dans la Bible, hein, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Ça aussi c'est une preuve de la vérité de la Bible, les enfants particulièrement. Quand on vous dit, oh, la Bible ceci, la Bible cela. Je crois aussi que c'est un des seuls livres, ou peut-être probablement le seul livre, où on ose dire que les héros de la foi n'étaient pas parfaits. Prenez n'importe quel livre religieux. Oh, tout était beau, tout était magnifique, le prophète, le dieu, le demi-dieu, enfin, suivant ce que c'est. Tout beau, tout doré, tout magnifique, sans faute, sans faille. La Bible, pas du tout. Abraham, oh là là, qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise. Isaac, il en a fait aussi, il a recopié celle de son père d'ailleurs. Et puis Jacob, vous allez voir, c'est pas triste. Alors ça nous rassure parce que ça veut dire que ce sont des gens comme nous que Dieu a choisis. Pas des super-héros de la foi. Ils l'ont été en fin de compte et on le sera aussi si on est fidèle à Dieu. Mais les problèmes, hein, ça ne manquait pas. Et vous allez voir que Jacob, c'est un bon modèle. C'est vraiment quelqu'un comme nous. Alors, Rebecca, elle va consulter Dieu, Dieu lui répond. Il a fait un miracle pour elle, et je pense qu'elle est aussi reconnaissante à Dieu, mais elle est quand même inquiète, parce que ses deux enfants ont l'air un peu bizarres, ces deux jumeaux qui se chamaillent déjà avant la naissance. Elle est troublée, elle pose la question au Seigneur. Je pense qu'elle aurait pu facilement poser la question aux voisines, aux copines, aux gens de la ville autour. Elles avaient certainement des réponses, ces femmes-là, parce que avec toute l'idolâtrie qui courait. Mais elle a fait le bon choix. Elle a posé la question au Seigneur. Alors, au terme de sa grossesse, il apparut qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, on l'appela du nom d'Ésaü, poilu. Après quoi sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on l'appela du nom de Jacob. Alors là, ils ont fait un petit jeu de mots dans ma version, il talonne, mais bon, c'est un peu amusant. Isaac avait 60 ans lorsqu'ils naquirent. Les garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, mais Jacob était un homme tranquille. Alors, j'ai pas aimé, hein, les commentateurs, ils sont un petit peu durs. Je ne vais pas dire qu'ils ont un esprit de jugement, mais quand même. Ils sont un peu durs et ils en ont après ce pauvre Isaac. Moi, je l'aime bien, Isaac. Je ne vois pas pourquoi on a toujours après lui. Et puis, après Jacob, un petit peu aussi, l'homme tranquille, bien paisible, qui vit sous ses tentes. Bon, moi, je ne sais pas, ce n'est pas méprisable quand même. Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aima Ésaü parce qu'il appréciait le gibier. Bon, tiens. Et Rebecca, elle, aimait Jacob, on ne dit pas pourquoi. Ah, l'alliance avait commencé avec Abraham. Dieu avait dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi, toi et ta descendance après toi, pour être ton Dieu et celui de ta descendance. Donc c'était clair, ça avait été transmis. Et vous savez, je me suis livrée un petit calcul, je n'ai pas pu résister. Qu'on dit qu'Abraham a vécu longtemps, Isaac aussi, j'ai calculé que Jacob avait connu Abraham. Et Abraham était mort, en fait, quand Jacob avait 15 ans. C'est important. Pourtant, les grands-parents, ils transmettent beaucoup de choses. Et avoir eu Abraham comme grand-père, ça ne devait quand même pas être triste. Hein, il en avait des choses à raconter. Ses visions, ses rencontres avec Dieu, ses voyages, la délivrance que Dieu lui avait accordée, la rencontre avec Melchisédek. Il y en avait des choses à raconter. Et les deux enfants, Ésaü et Jacob, ont été au bénéfice des histoires d'Abraham. À 15 ans, je pense qu'ils ont eu le temps d'en entendre suffisamment pour bâtir leur foi. Ça explique beaucoup de choses. Ils n'avaient peut-être pas de texte biblique, mais ils avaient toutes les histoires d'Abraham, le grand-père. Et il était là en chair et en os pour dire « J'ai traversé tout ça et Dieu m'a délivré. » Et ça, c'est important. Et là, j'insiste parce que je crois que le rôle des parents chrétiens, parents, grands-parents, oncles et tantes, etc., les familles chrétiennes, hein, c'est de transmettre fidèlement tout ce qu'on sait de Dieu par nos paroles, mais aussi par l'attitude. Et c'est vrai, c'est clairement exprimé par Dieu envers Abraham. Vous avez vu, tu transmettras à ta descendance. C'est un ordre, ce n'est pas une option. J'ai malheureusement, je sais que ce n'est pas le cas ici, mais j'ai souvent entendu des chrétiens me dire « Bon, mais les enfants feront leur choix quand ils seront adultes et voilà, on leur présente les différentes options. » Ce n'est pas une option. La Bible nous dit « Transmets à ta descendance. Je serai ton Dieu et le Dieu de la descendance après toi, etc. » Notre rôle, c'est de transmettre, non pas d'obliger. Alors, parce qu'il y a aussi l'autre extrême. Hein. Moi, j'ai connu dans mon église, quand j'étais petite, un monsieur qui tapait ses enfants pour aller à l'église. Bon, mes parents étaient horrifiés. Ils essayaient de lui expliquer que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est pas transmettre non plus. Hein. Mais l'obligation est de transmettre. Abraham l'a fait, il a même dû le faire à ses petits-enfants. Et malheureusement, l'histoire de Jacob et d'Ésaü illustre très bien deux choses. La transmission ne fait pas tout. Alors je vous dis, il faut transmettre, puis après je dis, bah oui, mais ça ne fera pas tout. Parce que chaque enfant va forcément faire son choix et son expérience en décidant ou non de craindre Dieu. Le problème, ce n'est pas d'adopter une religion, ça c'est facile. Je fais ça, 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 il y a ça, ça, ça qui est interdit, et je suis bon. Ça, c'est la religion. Ça marche, ça se transmet facilement, ça. Ça se transmet comme se laver les mains avant de manger. Il y a les choses à faire, les choses à ne pas faire, et puis c'est bon, hein. Mais la crainte de Dieu, ça se transmet pas seulement par les paroles des parents, mais par leur vie. Je suis sûre que si je n'avais pas vu mes parents craindre Dieu, je n'aurais pas accepté leur message. Parce que j'étais très entière, je suis peut-être un petit peu plus coulante maintenant en vieillissant, mais j'étais très entière étant jeune. Et si je voyais une incohérence, et je sais que les jeunes, vous êtes comme moi, si on voit les gens dire quelque chose et faire autre chose, ouh, ça passe pas. Et ça n'aurait pas passé. C'est parce que mes parents craignaient Dieu dans leur vie quotidienne que leur message, je l'ai gardé. Et c'est important pour chacun de nous, même vous les plus jeunes, d'être cohérent. Si vous croyez quelque chose, vous agissez en fonction de ce que vous croyez. Hein, on ne dit pas un truc et on en fait un autre. C'est important. Ça fait partie de la transmission. Et la crainte de Dieu, ça se transmet plus par l'attitude, par la vie, que par les paroles. Parce que vos parents peuvent toujours vous dire « crains Dieu, respecte Dieu, aime Dieu ». Mais si eux, ils ne le font pas, ça passera forcément difficilement. Donc la transmission est importante, mais ça ne suffit pas. Parce qu'après, les enfants ont leur choix à faire. Même lorsqu'ils choisissent de suivre Dieu, leur vie est une école où ils sont formés, taillés, avec des hauts et des bas. Et j'ai bien aimé, dans une de mes Bibles, j'ai un petit schéma comme ça de la vie de Jacob. Et c'est l'illustration de ce que je dis toujours. Ouais, c'est pas ça, la vie humaine. C'est ça. Et c'est marrant, vous voyez la courbe, Jacob, on va la faire. D'ailleurs, je la mettrai sur l'écran, d'aller voir la vie de Jacob en zigzag. Souvent comme la nôtre, hein. Alors, vous avez peut-être entendu cette réflexion, c'est le maire de mon village qui disait toujours ça. Il appelle ça la loi des trois générations. Le père construit l'usine, le fils la fait prospérer et le petit-fils la fait couler. Et il m'a dit, regardez dans la région mantaise, parce que c'est la région qu'il connaît bien, il m'a donné tout un tas d'exemples. Il m'a dit, c'est une loi qu'on retrouve partout. Oh, ça marche. Heureusement, ce n'est pas le cas partout, mais c'est une loi globalement, hein, peut-être à 60 ou 70% qu'on peut voir dans les grandes entreprises. Et je crains que dans la vie chrétienne, ça soit un petit peu pareil. Si la transmission s'est faite au niveau religieux, bah, les parents, ils découvrent le Seigneur, ils sont sauvés, ils s'engagent avec le Seigneur, puis ils transmettent à leurs enfants, et puis, bon, ça, soit ils font le choix de tout lâcher ou bien de continuer, mais arrivé à la troisième génération, je prie beaucoup, moi, pour les générations qui viennent derrière, parce que humainement, c'est le schéma, et je veux pas, nous, on n'est pas dans un schéma humain, on est dans le schéma du Seigneur, et on veut que notre descendance soit fidèle au Seigneur, hein. On veut échapper à ce schéma humain. Bon, nos enfants sont déjà à la troisième génération, donc maintenant on prie pour la quatrième. Mais ça demande de la prière, parce qu'il y a un schéma humain comme ça, qui a l'air de dire que bon, arriver à la troisième génération, plouf. Et c'est forcé. Si ça devient une religion, c'est forcé. C'est pour ça que la crainte de Dieu, elle en a parlé la semaine dernière, Sherman, et c'est dans vos questionnaires, les enfants, la crainte de Dieu, le respect et l'amour pour Dieu, c'est quelque chose de très très important. Donc avec Jacob, on est arrivé à la troisième génération et les choses se diluent un petit peu. C'est là qu'on voit que les choses ne sont pas du tout automatiques, même pour les patriarches. Abraham, waouh, Isaac, suis. Jacob et Ésaü, ça va être plus chaotique. Hein. Prions pour une bonne attitude de cœur, parce que c'est ça qui va déterminer les actions des enfants et pas l'inverse. Il faut aussi accepter chez les enfants l'idée de progression. On va voir Jacob, hein, comme je vous dis, de rencontre en rencontre, il va progresser. C'est très très visible dans la vie de Jacob. Il faut dire aussi aux enfants comme Abraham, et ça c'est important, qu'ils ont un appel de Dieu pour leur vie. Un plan, une vocation. Vous savez, pour le Seigneur, il n'y a pas de laïc. Alors on vit dans un pays où la laïcité est une grande valeur, mais ce n'est pas une valeur du royaume de Dieu. Il y a des bons côtés à la laïcité, j'en conviens, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas de laïc avec le Seigneur. Tout, chacun de ceux qui sont assis ici, vous avez un appel précis de Dieu sur votre vie. Comme Jacob. Il y avait un appel sur sa vie. Il devait être le descendant des patriarches. Il devait suivre ce que le Seigneur avait préparé, être fondateur d'un énorme peuple qui vit encore aujourd'hui. 4000 ans après, ils sont toujours là. Vous voyez que la Bible ne raconte pas de bobards. Il y avait un appel, et chacun de nous, on a un appel sur notre vie. Alors le problème, c'est que nous, et là on a tort. On voit, il y a les petits chrétiens et les grands chrétiens. Je me souviens, papa qui disait toujours, moi je suis un petit chrétien. Ma mère, ça le faisait enrager. Il n'y a pas de petits chrétiens et de grands chrétiens. Il n'y a pas de laïcs et de religieux. Il n'y a pas de piétailles et de gradés. Il n'y a pas de petits évangélistes et de grands évangélistes. Combien de fois on dit ça? Moi la première, hein. Il n'y a pas de petits ministères, c'est-à-dire de petits services, et de grands services. Il y a chacun de nous a un appel de Dieu sur sa vie. Pour être grand devant Dieu, dans l'appel qu'on a. Aux yeux de Dieu, en fait, il n'y a que deux catégories de gens. Il y a ceux qui sont fidèles et obéissants dans leur relation personnelle avec Dieu, puis ceux qui ne le sont pas. Il les aime, attention, il les aime tous. Mais il n'y a que deux catégories de gens. Il n'y a pas des grands et des petits. Alors, essayons de nous arracher ça de la tête. Et je vous rappelle mon verset favori que toutes mes classes apprennent par cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et on va le voir là, entre Jacob et Ésaü. Parce qu'il y a des gens parfois qui vont dire, ah mais la Bible dit Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Oh quelle horreur, quel Dieu injuste. Mais non, Dieu regardait au cœur. Dieu regardait au cœur. Il est intéressant Ésaü, mais Dieu regarde au cœur. Aux yeux des hommes, être grand, c'est une question de visibilité. Pourtant, dans le corps humain, hein, tout ce qui est le plus important, ce n'est pas ce qui est le plus visible. Être grand dans le royaume de Dieu, c'est chercher à rester petit et humble à côté de Dieu. Le craindre, tout faire pour lui obéir, être triste de lui désobéir et ne pas passer son temps à se justifier. Vous allez voir comment ça va se passer dans la vie de Jacob. Être fidèle à Dieu dans nos cœurs, nos pensées et nos paroles. C'est ça, être grand. Moi, il y a des chrétiens que j'admire, je ne vous dirai pas lesquels, des gens qui m'inspirent, mais ce n'est pas forcément les plus en vue, les plus parfaits, les plus anciens ou ceux qui ont le plus de connaissances. Moi, je suis souvent touchée, profondément touchée par des gens qui ont apparemment rien de spécial, mais qui ont une réelle crainte de Dieu dans leur cœur, qui ont un réel amour pour le Seigneur, qui savent qu'ils sont appelés à être membres d'un peuple élu, rappelez-vous ce que dit la Bible, un sacerdoce royal, une nation sainte, et qui vivent leur appel à leur niveau, avec foi, avec humilité. C'est frappant. J'apprends plus avec ces gens-là qu'auprès peut-être d'un très très grand évangéliste. J'ai eu la chance de passer 15 jours chez les Osborne. Je les ai beaucoup aimés, je les ai beaucoup appréciés. Mais je veux dire, je reçois largement autant de quelqu'un qui n'est pas connu, mais qui a une grande fidélité à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de grand et petit. Il y a un appel. Et vous, chacun de vous, vous avez un appel sur votre vie. On a tous un appel. Maintenant, est-ce qu'on va y répondre? Est-ce qu'on va l'accepter déjà? Et est-ce qu'on va y répondre? Jacob avait entendu d'Abraham et d'Isaac et de Rebecca quel était son appel. Vous voyez, il y a cette prophétie-là. Il y avait ce qui avait été dit à Abraham, qui avait été transmis, et ta descendance après toi. Et voilà, verset 27. Les garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne. Alors, ce qui est sous-entendu là, c'est un homme indépendant. Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Jacob, lui, il était dépendant de son élevage. Vous savez, ma belle-mère qui avait travaillé dans une ferme toute une partie de sa vie, elle est née dans une ferme. Et elle rigolait quand elle voyait les jeunes dans les années 68 qui commençaient à élever des chèvres. Ça la faisait rigoler parce qu'ils découvraient d'un seul coup qu'il n'y avait pas de week-end, qu'il n'y avait pas de congé, qu'il n'y avait pas de grandes vacances. Parce que les chèvres, il fallait s'en occuper tous les jours. Si on veut du lait, si on veut le fromage, etc. Et ils venaient sur les marchés en Alsace, là, vendre leur fromage, et ils étaient... avec leurs longs cheveux, leurs manteaux afghans, je ne sais pas, ceux qui sont de ma génération, ça leur rappelle quelque chose. Et ils vendaient leur fromage de chèvre, et ils trouvaient ça épouvantable, finalement, de... on n'a pas de vacances, on n'en peut plus. Alors elle, ça la faisait bien rire. Jacob était dépendant, il était éleveur. Il avait gardé le travail de ses parents et de ses grands-parents, qui était d'être éleveur. Ils étaient formidablement riches, n'oubliez pas ça. Hein, le paupérisme qui est transmis parfois dans la religion, mettez ça de côté. Ils étaient riches, immensément riches. On les voit payer pour enterrer Sarah, je ne sais plus combien de cycles d'argent. Ils avaient de l'argent et de l'or, donc il fallait bien qu'ils l'aient quelque part. Ils vendaient leurs animaux, ils avaient certainement toute une entreprise d'élevage qui était énorme. Abraham, Isaac étaient riches, formidablement riches, à tel point que leurs ennemis les craignaient parce que Dieu les avait bénis. Leurs troupeaux se multipliaient, Dieu leur donnait l'intelligence aussi d'aller au bon endroit pour les faire manger. Ça demandait de l'intelligence, croyez-moi, quand il faut déplacer 3000 moutons. Il faut savoir où aller pour qu'ils aient assez à manger, puis, etc. Donc Dieu les avait bénis, ils étaient très très riches. Mais on est dépendant de la nature, des saisons, des lieux. On est obligé d'être sous les tentes, il ne s'agit pas de courir la campagne. Ésaü, c'était un chasseur, indépendant. J'y vais quand je veux. Je ramène le produit de ma chasse et j'ai ce que j'ai besoin. Je vends, sans doute ils pouvaient vendre. Il y a beaucoup d'antilopes, pareil, dans cette région. Voilà, je suis libre. Pas besoin d'aller traire mes bêtes. J'ai pas besoin de faire mes fromages. Vous voyez tout de suite, le cœur d'Ésaü était très différent. Très, très différent de celui de Jacob. Et pourtant... il y avait un appel de Dieu sur la vie de Jacob. Et il y croit, je pense. Il le respecte et il en apprécie l'importance. Et ça, c'est important. Est-ce que nous, on croit à l'appel de Dieu sur notre vie? Première question. Et vous, les jeunes particulièrement? Profitez-en, vous êtes jeunes. C'est sympa de croire à l'appel de Dieu quand on est tout jeune. Ça donne une vie très intéressante. Parfois très mouvementée. Mais c'est chouette. Parce que Dieu ne vous prépare pas une vie ennuyeuse. Jacob, il ne s'est pas ennuyé sous les tentes. Dieu l'a mis à son école. Donc, est-ce qu'on croit à l'appel de Dieu? Est-ce qu'on le respecte? Est-ce qu'on en apprécie l'importance? Jésus a donné sa vie pour vous. Il a un appel sur votre vie pour que vous soyez ses témoins. Là où vous êtes à l'école, là où vous allez être au travail, dans le métier que vous allez choisir, quel qu'il soit. Vous pouvez être bijoutier, vous pouvez être... plombier, vous pouvez être agriculteur, peu importe. Mais vous avez un appel dans le métier que vous allez choisir. Parce qu'il n'y a pas de gens à plein temps et des gens à mi-temps avec le Seigneur. Il n'y a que des gens à plein temps. On est à plein temps pour Dieu dans le travail qu'on fait. À l'école, là, vous êtes à plein temps pour le Seigneur. Rendre un bon témoignage auprès des amis, rendre un bon témoignage auprès des profs. C'est déjà tout un programme, parce que les profs, ils ne sont pas tristes. Hein. Vous allez voir Marie-France, elle n'est pas là, on peut en profiter. Les profs ne sont pas toujours tristes. Et il faut les supporter parfois. Et c'est aussi un témoignage. C'est un ministère à plein temps. Supporter les profs, supporter les autres, les amis, etc. Hein? Donc, croire à son appel, en apprécier l'importance. Jacob le faisait. Le problème avec Jacob, vous allez voir, c'est qu'il y voyait clair. Il a vu que son frère ne répondait pas à l'appel de Dieu. C'était l'indépendance, la chasse, la belle vie. Là, il n'était pas encore marié, mais on va voir après qu'il va se marier avec absolument n'importe qui. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, Ésaü. Pourtant, il le sait, il connaît l'appel qui pèse sur les descendants. Et c'est lui qui est sorti le premier des deux jumeaux, donc c'est lui l'aîné. Il le sait. Mais il aime sa vie, à lui. Bon, il n'y a rien de mal, après tout. Il va à la chasse. Il a oublié que Dieu lui avait demandé quelque chose en tant qu'aîné. Et voilà, ça commence mal, là. Isaac aimait Ésaü parce qu'il appréciait le gibier. Rebecca, elle, aimait Jacob. Ça existe, ça, des parents qui font du favoritisme? Mais c'est pas possible. Les patriarches, rendez-vous compte. Des gens qui aimaient Dieu comme ça, qui connaissaient Dieu, qui parlaient avec Dieu, qui font du favoritisme avec leurs enfants. Quelle injustice. Ah ben, ils n'étaient pas parfaits, nos patriarches. Et dans ce domaine, c'était vraiment pas la joie, hein. Et Jacob, il va refaire pareil que ses parents. Vous savez ce que je dis toujours, hein, ce qu'on a critiqué chez les parents. On risque de le faire à son tour. Favoritisme. Et ça, ça a été une cassure dans la famille. En plus, le plus incroyable, qui est-ce que le patriarche Isaac, qui est un homme de paix, qui a bien compris sa vocation, qui a accepté, lui, d'aller se faire, d'être sacrifié sur le mont Morija. Enfin, vous vous rendez compte, il avait du tempérament, ce gars, quand même. Arrivé à cet âge-là, il va préférer qui ? Le chasseur. Et la raison pour laquelle il va le préférer, on a honte pour un patriarche, on a honte, parce qu'il faisait bien la cuisine. On dit toujours, ma belle-mère disait que le chemin vers le cœur d'un homme passe par son estomac. Apparemment, ça marchait pour Isaac. Ça marchait pour Isaac. Non mais attendez, c'est pas sérieux quand même. Un patriarche, quelqu'un qui avait, vous voyez, l'appel qu'avaient ces gens-là sur eux, ils en étaient conscients. Vous allez être père d'un peuple immense, vous allez avoir, votre nation va être en esclavage pendant un temps. Ils avaient annoncé tout ça, Jacob, Abraham, il l'a transmis. Et vous allez être père de plusieurs nations, vous allez bénir le monde entier au travers de votre famille, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé, Jésus est venu chez eux. Hein. Eh bien, ils préfèrent le chasseur, qui se comporte visiblement de façon très indépendante, même par rapport à son appel, parce qu'il fait bien la cuisine. Alors là, ça m'a fait réfléchir sur nos valeurs. Est-ce que nos valeurs en tant que parents, déjà, c'est sûr que nous, on n'a pas de préférence envers nos enfants, j'espère que ça, c'est, je pense quand même que c'est clair et, depuis longtemps, mais quand même, est-ce que nos valeurs pour nos enfants sont celles de Dieu ? Ou est-ce qu'on va avoir un petit faible, je ne pense pas qu'on ait des préférences, mais un petit faible, mais pour des raisons qui ne sont pas les bonnes raisons. Il faut faire attention à ça. Hein. Si Isaac a eu ce problème, nous aussi certainement parfois, hein. Attention aux raisons qui font qu'on va voir, oh, on va excuser tel ou tel enfant, parce qu'il est gentil. C'est vrai que je me répète, mais je dis toujours, ça me faisait toujours frémir quand j'entendais des chrétiens me dire « Ah bah non, les enfants, ils ne suivent pas le Seigneur, mais ils sont mariés avec des inconvertis, etc. Mais, oh, ils sont tellement gentils. Ils n'ont pas la crainte de Dieu, mais ils sont gentils, donc ce n'est pas grave. » Ça me fait mal. Et c'est un peu ça. « Oh, ce n'est pas grave, il est indépendant, il est chasseur, mais il fait bien la cuisine. » Alors, tout va bien. Ça, c'est triste. Rebecca, elle, on ne dit pas pourquoi elle aimait Jacob, mais je pense qu'elle était peut-être un peu plus spirituelle que son mari. Elle avait cette promesse, et on va le voir après, je crois que je ne me trompe pas en disant ça, parce qu'on va voir après ce qu'elle va faire. elle y tient parce qu'elle a compris ce que Dieu lui avait dit. Elle a compris que Jacob avait l'appel sur sa vie d'être l'aîné, d'être celui qui va porter la promesse d'Abraham. Donc, je pense que c'est aussi ça qui fait qu'elle préfère Jacob. Même s'il y a le fait certainement qu'il était plus souvent là, qu'il devait lui donner un coup de main et qu'il était plus disponible. Et pour une maman, c'est vrai que c'est toujours sympa. Mais bon, je ne pense pas que ce soit le seul motif, vu ce qui se passe dans la suite. Et puis un jour que Jacob faisait cuire une soupe, Ésaü revint de la campagne épuisé. M'étonne. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce potage. Tiens, lui aussi faisait la cuisine à propos. Hein. Ce potage roux, car je suis épuisé. C'est pourquoi on l'appelait du nom d'Édom, roux. Jacob dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Aïe, aïe, il y en a qui ont de la présence d'esprit. Hein. Ésaü répondit, je suis sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Ainsi, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob donna à Ésaü du pain et de la soupe de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Ainsi, Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Bon, je crois qu'on est un petit peu trop juste pour en parler maintenant. Mais voyez, il y en a un qui n'avait pas perdu de vue la promesse de son appel. Il y en a une, Rebecca, qui n'avait pas perdu de vue la prophétie qui avait été donnée à la naissance. Et alors, les conditions sont réunies un jour pour prendre cette promesse, mais de façon humaine. L'occasion était belle. Ils ont sauté dessus et ils ont eu tort. Ce n'était pas du tout ce que Dieu avait prévu. Et là encore, voyez la sincérité, l'authenticité de la Bible qui nous montre la faiblesse humaine. Pour plaire à Dieu, pour accomplir la promesse de Dieu, voilà qu'Isaac, pas Isaac, Jacob va prendre les choses en main. Déjà lui qui tenait le talon de son frère à la naissance, il va coincer son frère. Il va l'acculer vraiment à vendre son droit d'aînesse. Et l'autre, qui n'avait rien compris à son appel, qui se lavait les mains complètement de son appel, cette notion de descendance, etc., va se laisser faire. Et ils ont tort, tous les deux. Et Dieu n'était pas satisfait de ce qu'ils ont fait, même s'ils l'ont fait au nom de la prophétie. Et j'ai pensé combien de fois on risque en tant que chrétien de faire des choses en se disant « Oh, c'est la volonté de Dieu. De toute façon, Dieu me l'a demandé. » Et on fait les choses par soi-même. Alors que ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu avait son action, son plan d'action à lui, et on va court-circuiter le plan d'action de Dieu. Et d'ailleurs, ils avaient de qui retenir. Vous vous souvenez, Sarah? Bon, bah écoute, Abraham, la promesse, elle tarde à venir. C'est une coutume locale, j'ai vérifié, hein, c'est une coutume locale. Je prends ma servante, je te la donne, et puis on aura un enfant, on l'adopte. C'était le système d'adoption de l'époque. Et puis voilà, c'était reconnu, c'était accepté. En plus, c'est accepté par le monde. Par le monde. Mais pas par Dieu. Et là, on va retrouver la même situation des désobéissances. Je prends ma vie en main. Je prends les choses en main. L'occasion est trop belle, je saute dessus. Et on va voir la prochaine fois qu'il y en a qui n'ont pas fait ça. David et Saül. Il avait tout en main pour être roi. Il a refusé parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Et je crois que ça doit nous faire réfléchir aussi à toutes les fois où on précipite les choses dans nos vies. On va en reparler la fois prochaine. Et Jacob a été comme sa maman, Jacob comme sa grand-mère, et il a pris les choses en main et il a eu tort. Il a eu grandement tort, ça a été la source de tout un tas de problèmes qui se sont multipliés par la suite. Alors la vie de notre Jacob, elle ne commence pas très bien. Il y a des promesses, il y a des tas de bonnes choses, puis il y a une série d'erreurs, de problèmes. Et là, j'espérais finir aujourd'hui, mais ce ne sera pas le cas. On va voir la première partie de sa vie. Il va accumuler les erreurs, les désobéissances au nom de Dieu pour accomplir la promesse de Dieu. Et Dieu va être obligé de le déprogrammer, de lui faire passer par tout un temps d'école et de le reprogrammer pour qu'il devienne le patriarche qu'on connaîtra après, celui qui sera capable de prier pour Pharaon. C'était autre chose. Vous voyez, le chemin qui va être accompli, ça commence mal. Et dans nos vies aussi, il y a pas mal de choses. On a commencé déjà avec le péché originel, On était déjà mal barrés dès le départ. Mais le Seigneur nous met à l'école. Alors, je prie que comme Jacob, on accepte cette école. Et puis, on aura la suite. Je suis désolée, j'étais un peu longue. Je vais essayer de faire un peu plus vite la prochaine fois.